Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Le journal des sports en ce moment de coronavirus et on revient sur une sélection des nouvelles avec les sonores de Radio France Internationale. En Allemagne, le foot, la Bundesliga hier avec le Bayern Munich qui s'est imposé contre le Bayer Leverkusen 4-2. Le match nul entre Düsseldorf et Hoffenheim, 2-2. Victoire de Mayence contre Francfort 2-0. Le nul entre Paderborn et Leipzig 1-0. Et la victoire du Borussia Dortmund contre Hertha Berlin, 1-0. Le Bayern de Munich toujours en tête avec 70 points. Deuxième, le Borussia Dortmund avec 63 points. Et en troisième position, Leipzig avec 59 points. En France, la Ligue de foot professionnelle a décidé d'ouvrir dès demain, lundi, le marché des transferts entre les clubs français. Précision de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Et oui, ce sera l'occasion de se renforcer avant l'ouverture du marché international en juillet et avant le début de la prochaine saison en France aux alentours du 20 août. Le mercato franco-français représente près de la moitié des transactions de Ligue 1 et de Ligue 2 et il se terminera en même temps que ceux des autres grands championnats européens. Ce sera au mois de septembre.
Et maintenant, quelques nouvelles en bref de foot. Toujours en France avec Olivier Pron pour Radio France Internationale.
Paris, la plus haute juridiction française examinait les recours contre l'arrêt de la Ligue 1. Trois clubs, Lyon, Amiens et Toulouse, contestent les décisions de la Ligue. La LFP, le 30 avril dernier, après 3 heures d'audience hier, son directeur général Didier Quillot continuait à défendre la position de l'instance du foot professionnel français. Il insiste sur l'unanimité qui prévalait au moment où la décision d'arrêter la saison a été prise. Didier Quillot avec Sarah Loubacouche.
Le 30 avril, les décisions que nous avons prises ont été prises à l'unanimité, moins une seule voix. Les décisions qui ont été prises par la Fédération française de football ont été prises à l'unanimité de son COMEX. Le syndicat des joueurs, je vous le rappelle, n'était pas pour la reprise la semaine précédant le 30 avril. Il y avait donc une unanimité de l'ensemble des familles du football professionnel ce jour-là, le 30 avril. Aujourd'hui, il faut maintenant se tourner vers 2021, comme d'ailleurs les deux syndicats de clubs, Première Ligue et UCPF, l'ont rappelé il y a 2 jours, en appelant maintenant chacun à regarder devant et ne plus regarder derrière.
Eh bien, si on n'a pas compris qu'il y avait eu l'unanimité ce jour-là, c'est qu'on est sourd.
Le Nigérien Odion Ighalo reste en Angleterre avec Manchester United qui a prolongé son contrat. Explication de Martin Guèze pour RFI.
Arrivé sur le gong le 31 janvier 2020, Odion Ighalo va finalement prolonger l'aventure à Manchester United. L'attaquant nigérian est désormais prêté dans le nord de l'Angleterre jusqu'en janvier 2021. Et ce malgré le pont d'or que lui proposait Shanghai Shenhua, à qui il appartient une prolongation de 4 ans et un salaire annuel de 21 millions d'euros. Mais le buteur passé par Watford a préféré persévérer à Manchester. Pourtant, les supporters étaient sceptiques lors de son arrivée, mais en 8 petites apparitions, l'ancien Super Eagle a réussi à leur faire changer d'avis. Un doublé en Coupe d'Angleterre, 2 buts en Ligue Europa et 4 entrées en championnat. Ighalo a endossé à Manchester United le costume quasiment culturel de super sub, c'est-à-dire de remplaçant de luxe. Et si la crise du coronavirus a stoppé net sa bonne dynamique, son club espère que le joueur poursuivra sur sa lancée jugée impressionnante par les Red Devils dans le communiqué de prolongation. Le buteur s'offre lui à 30 ans une deuxième carrière inespérée, alors que son exil chinois avait tout d'une retraite dorée. Retraite que l'attaquant a d'ailleurs pris avec sa sélection l'an passé, après avoir terminé meilleur buteur de la CAN 2019, avec 5 réalisations.
Le Brésilien Rai Souza Vieira de Oliveira, ex-joueur et capitaine du Paris Saint-Germain, et aujourd'hui directeur sportif du FC Sao Paulo au Brésil. Il est aussi très engagé avec des familles défavorisées au temps de coronavirus avec sa fondation Goldo Letra. On l'écoute, il est avec Annie Gasnier de Radio Foot International.
Goldo Letra, c'est un jeu de mots. C'est le sport pour l'éducation, l'éducation publique surtout, mais aussi des activités éducatives qui nous ont fait, des activités ludiques et éducatives qu'on fait depuis 21 ans. Plusieurs générations sont déjà passées. On a aussi la formation vers l'emploi. dans un moment d'urgence sanitaire, on a été obligé d'élargir notre action, même si on est plus limité dans le sens d'activités directes avec les enfants et les jeunes. On essaie de faire online aussi, on fait ce qu'on peut, mais élargi jusqu'à les familles. Une chose qui nous a beaucoup aidé là-dessus, c'est que pendant ces 21 ans, on a un centre à São Paulo et un autre à Rio, dans des contextes très, très difficiles, violents. Mais le fait que notre méthodologie a toujours mis en valeur le rapport avec la famille, donc on est reconnu par la communauté, donc on est un acteur local important, surtout dans ce genre de situations.
Et puis 100 millions de dollars offerts par Michael Jordan, l'ancienne star du basketball, aux associations qui œuvrent contre le racisme. Précision de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Oui, l'Américain de 57 ans va échelonner son don sur les 10 prochaines années. L'objectif, financer des organisations vouées à s'assurer de l'égalité, de la justice sociale et d'un meilleur accès à l'éducation. C'est ce que Michael Jordan annonce dans un communiqué. Jamais un sportif n'a fait une aussi grosse promesse de don pour une organisation caritative à but non lucratif. Cette initiative de Michael Jordan intervient au moment où l'émotion est toujours très vive. Bientôt 2 semaines après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans tué lors de son arrestation par la police.
Et puis NBA annonce le retour des compétitions en juillet prochain. Olivier Pron.
Ben oui, après le MMA, hein, vous savez, cette lutte un peu particulière là où on a le droit de se taper quand on veut, comme on veut, le NASCAR, eh bien c'est donc le championnat de basket professionnel de la Ligue nord-américaine qui va faire son retour sur les parquets outre-Atlantique. L'annonce faite jeudi par la NBA était attendue par les fans dans le monde entier. Encore fallait-il pour cela que le plan de reprise de la saison soit approuvé par au moins les 3/4 des 30 propriétaires des équipes, appelées franchises. L'accord ce vendredi du syndicat des joueurs ne devrait être qu'une formalité. La saison suspendue le 11 mars, quand le Français Rudy Gobert a été, on s'en souvient, contrôlé positif au coronavirus. Cette saison devrait donc se dérouler entre le 31 juillet et le 12 octobre sur un seul site, près de Disney World à Orlando. C'est sympa, c'est en Floride. Une reprise qui va rassurer les diffuseurs ESPN notamment, et d'autres chaînes locales, et bien sûr les franchises. Correspondance de Los Angeles, Loïc Piala.
À Disney World, la NBA dispose de 90 hectares et de toutes les infrastructures nécessaires pour isoler les joueurs du reste du monde. Accessoirement, ses principaux diffuseurs, ESPN et ABC, appartiennent à la marque aux grandes oreilles. 22 équipes sur 30 participeront à cette fin de saison, soit celles qui sont déjà qualifiées pour les playoffs et celles qui peuvent encore les atteindre. 9 équipes à l'Est, 13 équipes à l'Ouest. Chaque franchise disputera 8 rencontres, sans public bien sûr. S'ajouteront d'éventuels matchs de barrage pour le 8e et le 9e. Viendra ensuite le temps des playoffs au format habituel, c'est-à-dire au meilleur des 7 matchs. Les joueurs seront testés quotidiennement en Floride. Ils arriveront normalement sur place lors de la 2e semaine de juillet pour les entraînements collectifs. D'ici là, ils continueront à se remettre à niveau individuellement dans leur centre d'entraînement.
À noter maintenant que la Formule 1 débutera le 5 juillet prochain en Autriche, la première des 8 courses en Europe. Enfin, un mot de rugby. Le nouvel entraîneur des Wallabies, le Néo-Zélandais Dave Rennie, a reçu le soutien de l'un de ses prédécesseurs les plus éminents, l'ancien entraîneur des Wallabies, Eddie Jones, qui affirme que la complaisance a accablé Rugby Australia au cours des 15 dernières années. Eddie Jones, qui est maintenant l'entraîneur de l'Angleterre, a déclaré sur Sky Sports New Zealand que Rennie est une personne qui va galvaniser l'équipe, ramenant le désir aux joueurs et ramènera les Wallabies à bien jouer à nouveau. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.